there's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada.
Bonjour, 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 chers auditrices et auditeurs de Radio Galère, pour notre émission Livres et Amis du mercredi 5 octobre 2022 avec Françoise et Dominique. Bonjour à Odile, que je n'ai pas vue depuis longtemps, mais j'espère que ça va avoir lieu bientôt. Retour au direct, en effet, cette semaine, puisque j'ai été absente un certain temps. Retour au direct avec toutefois un séjour qui se perpétue aux Caraïbes. La semaine dernière, en rediffusion, vous étiez en Haïti avec Émilie Prophète. Et cette semaine, nous sommes en Guadeloupe. Et avec les exilés de l'intérieur, que sont parfois les Antillais français en métropole, avec Estelle Sarabulle. Parlons un tout petit peu de Marseille, d'abord. Cette semaine, c'est au week-end, enfin pendant la fin de semaine, donc, la Fiesta des Suds. Et le dimanche, il y a toute une série de concerts gratuits organisés par la ville. Donc, regardez les affiches et regardez éventuellement le site de la ville. Ça s'appelle Musique et c'est dimanche, toute la journée, un grand nombre de concerts. Alors, excusez-moi, j'ai un gros rhume, j'ai peut-être la voix un peu couverte. Je vais essayer quand même de bien parler. Et puis, de temps en temps, je boirai un petit coup. Donc, excusez-moi, de temps en temps, il y aura peut-être des petites pauses. Une des raisons qui m'avait fait quitter Marseille pour la région parisienne ces deux dernières semaines, c'était le désir de participer au festival America de Vincennes. America, comme disent les habitués, c'est un festival littéraire fait de rencontres avec les auteurs d'Amérique du Nord, principalement, les États-Unis, enfin des États-Uniens, des Canadiens, des Mexicains, des Cubains, des Haïtiens. Et ce festival fait la part belle à l'expression des minorités afro-américaines et amérindiennes, habituellement peu représentées, surtout sur le plan international. America, c'est l'occasion de rencontrer tous les deux ans, à Vincennes, une autre Amérique, et de faire une moisson de livres qu'on vous présente ensuite, avec d'autres bien sûr, au fil des semaines. Et cette année, j'ai acheté pas mal de livres écrits par des Indiens, les Amérindiens, les peuples premiers, comme on dit. Donc, voilà, vous en entendrez parler dans les semaines qui viennent. Et America, notre auteur d'aujourd'hui, aurait pu en être, alors qu'en fait, nous l'avons sélectionné auparavant. Il s'agit donc de Estelle Sarabulle, une autrice guadeloupéenne vivant en métropole, pour son premier roman, « Là où les chiens aboient par la queue », qui est paru en 2018, mais qui a été peu diffusé ensuite en raison des confinements survenus. Donc, « Là où les chiens aboient par la queue », en créole, c'est « Là, chien, caja, pépaqué », c'est Morne-Galant, un village guadeloupéen de fiction, situé dans les grands fonds de Grande Terre, et à quelques distances de Pointe-à-Pitre, mais en fait très éloigné par la vie qu'on y mène, surtout dans les années 30 et 80, époque de notre roman. L'écriture de ce livre est tout à fait originale et intéressante, puisqu'elle est principalement à deux voix, et aussi, de temps en temps, à beaucoup plus. La narratrice principale, c'est la nièce, une femme française d'origine guadeloupéenne, vivant en Île-de-France, à Créteil, née comme son autrice au début des années 70. Mais elle donne très vite la parole à une autre femme autour de qui s'organise le récit, née, elle, dans la Guadeloupe des années 30, Antoine. Antoine, une femme ? Ben oui, c'est comme ça. Antoine, c'est une femme, mais une femme forte, comme ces femmes de la Caraïbe qui font tourner le monde, ou du moins leur monde. Antoine nous présente ses parents, Hilaire et Eulalie, sa sœur Lucinde et son frère, petit frère, le père de notre première narratrice, qui est donc la nièce d'Antoine. Tout le roman se construit autour de la juxtaposition de chapitres écrits par les deux personnages principaux. Et quand je dis écrit, je devrais dire raconté, car il s'agit de récits de transmission orale qui, en effet, nous racontent des histoires personnelles, celles de nos deux personnages, en même temps que celles de toute une galerie de portraits qui les entourent. Alors, écoutons d'abord la nièce. Et c'est Françoise qui va nous prendre sa voix.
Dans la famille, tout le monde appelle mon père petit frère, comme s'il n'était jamais devenu autre chose que cet être fragile que mes tantes ont plus ou moins guidé dans leur enfance, en ces débuts où la tendresse n'était pas absente. Une rue entière de mornes galants compte les membres de ma seule famille, tous Ézéchiel, à en faire perdre la tête aux facteurs novices. Une sœur peut être la marraine de son frère, qui ne l'appellera plus que marraine, en lieu et place de son prénom officiel. C'est le cas de mon père avec Antoine. Lorsqu'il l'appelle marraine, je ne peux entendre autre chose que ma reine. Et je sais maintenant qu'elle a tout d'une souveraine, fière et indépendante. Adolescente, lorsque je laissais traîner mes vêtements par terre, haussais les épaules parce qu'on me prêchait pour la centième fois de faire attention à ma tenue, ou lorsque j'étais insolente, c'était toujours son nom qui revenait. On dirait ta tante Antoine. On voit que tu tiens d'Antoine. Pendant un temps aussi, la taille de mes pieds inquiéta légèrement mes parents, qui déclarèrent sur un ton fataliste les mêmes péniches que sa tante. À première vue, la comparaison n'avait rien de séduisant. Mais un minuscule coin de ma poitrine était secrètement flatté, car si l'on attribuait bien des défauts à ma tante, je percevais une certaine admiration pour celle qui n'avait jamais fait que suivre son désir en cultivant sans regret l'art de la catastrophe. De la fin des années 70 à la fin des années 80, mes parents ont économisé pour pouvoir acheter environ tous les 2 ans notre billet Air France pour la Guadeloupe. Ma mère se faisait une joie d'y aller. J'étais partagée. Je me demandais ce qui la motivait tant. Hâte de se retrouver dans ce lieu énigmatique où le jour tombait à l'envers, où l'on vivait encore sans eau courante ni électricité, épié par les rats bleus et les crapauds dubitatifs, pris dans une lumière brûlante qui ne nous lâchait que sous abri d'une tôle crépitante de chaleur. Moi, les premiers jours à Morne-Galant, je m'ennuyais beaucoup et les rues aseptisées de la ville me manquaient. Puis peu à peu, j'étais aspirée par la beauté de la nature, si forte qu'elle vous entrait par tous les orifices, s'emparait de vos sens. Rouge violent sur vert foncé, senteur d'amandes en décomposition, haleine salée de la mer, piqûre des fourmis. Je voyais mon père devenir le pilier de son propre père, qui cachait ses larmes jusqu'au bout d'un mois, nous montions dans la voiture pour retourner à l'aéroport. De retour chez nous, je me demandais pourquoi papa et ceux qui lui ressemblaient, même couleur de peau, même accent chantant porté malgré soi, comme le sparadrap du capitaine Haddock, avaient vis-à-vis du reste du monde cet abord chaleureux, masquant à peine des gouffres de fragilité. Il me racontait volontiers son enfance, et tout au long de ma propre jeunesse, je m'en suis contentée. Je ne disais rien de mon constant sentiment d'ambiguïté, de décalage, car il y avait des situations plus compliquées que la mienne. Je devais m'estimer heureuse d'avoir un environnement familial stable et 2 parents au travail. Certains de mes amis balançaient continuellement entre leur famille et des foyers d'accueil. Des pères passaient la journée au bar. D'autres ne parlaient pas français et ne sortaient jamais. Pour la majorité des adultes, nous, les enfants, étions l'avenir. Absorbée par ma propre enfance, puis mes débuts dans la vie, il m'a fallu du temps pour interroger mon père et ses sœurs sur leur passé et la façon dont ils ont tous quitté leur île. Une année, j'ai décidé de les questionner tous les 3, séparément. Mon grand-père, Hilaire, venait de mourir à l'âge de 105 ans. Peu de temps après, naissait ma fille. C'était des moments d'échange et de souvenirs. En enserrant la main minuscule et soyeuse de mon bébé, Je pensais au contact suave et rugueux de la vieille main aux ongles larges qui me tenait lorsque j'avais 4 ans, 9, 11, la poigne de moins en moins assurée au fil des années. Je voulais qu'on me raconte la Guadeloupe, ce temps d'Hilaire et les temps d'après, nouer les fils avec ce que j'en connaissais moi-même. Tour à tour, Antoine, Lucinde et petit frère m'ont offert des moments vécus. Je prenais des notes que je ne montrais pas. Les années ont passé. Ma propre famille s'agrandissait. J'étais prise dans un quotidien d'adulte affairé. 10 ans plus tard, à la faveur d'un hiver trop rigoureux, je me suis quasiment enfuie vers Lille. J'ai alors repensé à ces conversations et à mes notes. Les voix avaient mûri en moi, dans un embrouillamini mini qu'il me fallait démêler. À mon retour, j'ai cherché mes cahiers au fond d'un tiroir. Les mots, les expressions, les bribes de dialogue griffonnées à la hâte m'ont sauté aux yeux comme une conversation tout juste ajournée. Le désir d'en faire naître un récit m'est venu. J'ai hésité, attendu encore. Un jour, Antoine, Lucinde et même petit frère partiraient. Je m'y suis mise enfin, essayant de revenir au plus près de ce qu'ils m'avaient relaté avec plaisir et confiance, tentant de préserver les scènes et les échanges qu'ils avaient recréés en moi. J'espérais comprendre ainsi, avec le recul, le tour de ma propre existence.
Ces quelques pages d'introduction de l'Agnès, c'est l'origine des récits familiaux qui se succèdent ensuite. On va écouter avec elle, bien sûr, tout d'abord la deuxième héroïne, Antoine, et nous verrons ensuite les membres de la famille. Donnons donc la parole à Antoine. Et Antoine, c'est pas n'importe qui.
Antoine, l'enfant, sa mort de galop.
Papa et maman partaient de bon matin s'occuper des animaux et ouvrir le magasin à l'entrée de Morne-Galant. Ta tante Lucinde et moi, on mangeait en silence un peu de dictam mélangé à de l'eau chaude. Tant que maman a été là, Lucinde et moi, on s'est rendus à l'école à peu près tous les jours. C'était 5 kilomètres à pied pour y arriver au centre du bourg. Moi, je serais bien restée toute la journée du côté de la case à divaguer dans les grands bois. Mais accoudée au comptoir du magasin, maman pouvait voir si on passait bien devant elle. L'autre chose qui rendait maman bizarre pour les cutéreux de Morne-Galant fut son arrivée des grands fonds, comme ça, sur le cheval d'Hilaire, qui se tenait raide sous son chapeau sombre, une blessure sanguinolente à la tempe, la bride serrée sur ses grosses mains. Cette beauté blanche, assise derrière l'un des nègres les plus noirs de la contrée, et un des plus brigands, comme on dit chez nous, ça faisait comme une insulte pour les deux mondes. J'ai dit qu'on habitait la partie la plus désolée de Morne-Galant, qui ne comptait pas plus d'une rue et 10 maisons à l'époque. Isolés comme on l'était, nous faisions tout de même partie du bourg. Nous en formions une part. N'importe quel visiteur pouvait s'arrêter devant notre case en revenant de Port-James ou pour négocier une journée de travail dans les champs de canne. Mais après nous, en s'enfonçant au mitant des grands bois, on trouvait un chemin de terre qui virait à gauche, à droite, encore à droite, jusqu'à se faufiler sous les épaules vertes des mornes. Là, tu atteignais un autre monde. La route n'était pas difficile à suivre pour y pénétrer. Peut-être 8 ou 10 kilomètres de lacets serrés entre 2 falaises recouvertes de racines de plus en plus massives, de fougères dégoulinantes de pluie et de vapeur. Et plus tu t'enfonçais dans cette terre, plus la peau de ses habitants s'éclaircissait. Au plus profond de ce millefeuille en constante germination vivaient ceux que tout le monde appelait les blancs matignons. Des gens difficiles à approcher, on en avait peur. C'est de là que maman venait. La famille de maman, les Lebec, c'était des Bretons arrivés en Guadeloupe, pauvres comme Job, 200 ou 300 ans avant. Ils avaient lutté pour vivre là, sur ces pentes jamais éclairées par le soleil, mais où la terre était douce, riche et noire, comme du marc frais. Ils avaient prospéré tranquillement grâce à la culture du café et du cacao, puis s'étaient essayés au coton. Ils étaient durs à la tâche, jaloux de leurs grains, mais pas assez riches pour s'acheter des esclaves, mais pas décidés non plus à laisser des nègres s'installer au fond de ces tortillons, où ils auraient bien fini par se mélanger. Pour ce que j'en sais, au cours des siècles, les crises sont passées sur leur tête comme des orages qu'ils ont endurés en courbant le dos. Les prix du cacao et du café se sont effondrés. Le coton n'a pas pris. Ils se sont mis à l'élevage des chevaux et remontaient de temps à autre vendre des légumes savoureux aux noirs pauvres comme aux blancs propriétaires des vastes plantations de canne. Ils ne frayaient ni avec les uns ni avec les autres. Ils avaient des alliances compliquées avec des familles qui leur ressemblaient, embouchés comme eux dans les sillons d'une terre qu'ils avaient appris à aimer de toute leur âme. Peu à peu, les patois de Bretagne, de Normandie ou de Franche-Comté ont disparu. Quand j'étais petite, ils ne parlaient que créole et ça me troublait. Ces blancs aux yeux bleus qui parlaient la langue qu'on nous interdisait à nous, les enfants, d'utiliser sous peine de nous laver la bouche avec du savon. Pour tout te dire, par certains côtés, les blancs matignons vivaient plus comme les anciens esclaves que comme les anciens maîtres. Mais ils s'obstinaient à garder leur sang aussi peu mélangé que possible. Il a fallu que papa, qui n'avait peur de rien et se montrait plus arrogant qu'un coq de combat, aille traîner là-bas avec sa jument qui ne le quittait jamais. Il a dû rencontrer Eulalie dans un bal ou peut-être en allant acheter un kilo de riz dans la petite boutique qu'elle tenait. Tu imagines le tremblement de terre que ça a provoqué dans ce trou vert protégé de toute intrusion. Les deux frères d'Eulalie se sont transformés en cow-boys du Grand Ouest, prêts à poignarder Hilaire pour protéger cette belle fleur fragile qu'était leur Eulalie.
Et la suite hein. À Morne-Galant, il ne restait plus que papa pour travailler la canne. La grand-mère d'Hilaire était née sur une plantation et avait vu les cicatrices du fouet sur le dos de ses parents. Adulte, elle avait eu l'habileté d'acheter un peu de terre pour s'assurer un avenir et s'était mariée à un gars qui avait les mêmes ambitions qu'elle, le premier Ézéchiel à ne plus être esclave et à avoir un nom de famille enregistré en mairie. Si bien que 50 ans après l'abolition, à force de patience et de labeur, la famille possédait 5 hectares, dont seul Hilaire connaissait la carte exacte, la limite marquée ici par un gommier isolé, là par un pont éboulé avalé par les racines de pourpier. La canne, c'est le travail le plus dur, le plus douloureux de toute la grande terre. Les frères et sœurs de papa étaient donc presque tous partis tenter leur chance ailleurs. Mais ils considéraient Hilaire comme le chef de famille et le gardien de ses empans, où le vent joue dans la fourrure de la canne, blond pâle, vert tendre ou blanc sec, suivant les saisons. Il traitait toujours Hilaire de fou, parce qu'il vivait avec nous dans ce coin de campagne, sans eau courante et sans électricité, mais ils étaient bien contents qu'il joue au gardien, parce que, même dure et méchante à travailler, la terre, c'est la terre. Papa aimait trop être célébré pour ne pas endosser ce rôle de patriarche. Une fois que ses frères et sœurs l'ont poussé en avant, il ne s'est pas fait prier. Peut-être aussi qu'il croyait, comme ça, impressionner les Lebec. Il mettait un point d'honneur à payer les impôts au nom de toute la famille, parce que l'administration se souvenait de ce bout de Guadeloupe introuvable sur la carte. Il arrivait au bureau du percepteur avec son chapeau, sa chemise la plus propre, un mouchoir rouge à la main, ses chaussures de ville pointues, et il s'asseyait pour signer avec de grands ronds de bras, un chèque à 3 chiffres. Et il était fier, cet imbécile, et il continuait à payer les taxes de tout le monde, et les noces d'une cousine, et les études de son plus jeune frère qui voulait devenir douanier. Je n'ai jamais compris comment il pouvait à ce point avoir un cœur à 2 vitesses. C'était toujours oui pour eux, et toujours non pour nous, ses enfants. Si bien qu'il nous arrivait d'avoir faim, pendant qu'il allait en ville acheter une paire de chaussures à l'un de ses neveux. De voir comment se comportait son mari, ça a d'abord mis maman dans une colère affreuse. Mais elle ne disait jamais rien devant le monde, parce qu'elle se savait épiée, et que les gens attendaient le moment où on pourrait dire que c'était couru d'avance, cette catastrophe. Surtout vis-à-vis des Lebec, restés rancuniers au fond de leur terre. Elle ne pouvait pas admettre que son mari la volait et jouait les grands seigneurs au détriment de sa propre famille. Alors elle a lutté, un temps. Elle a travaillé pour 6, le matin aux bêtes, la journée dans son lolo, vous savez la petite boutique antillaise, où elle aurait vendu des lunettes à un aveugle, le soir à bêcher le jardin qu'elle et Hilaire avaient défriché, au sommet du Morne. La suite encore.
Je suis donc venue la première et ils m'ont donné un nom de baptême, Apollone. Mais mon nom de savane, c'est le nom que tu connais, Antoine. Chez nous, on donne un prénom de baptême, mais on n'utilise que le nom de savane pour embrouiller les mauvais esprits. Tout le monde m'appelle Antoine et peu de gens connaissent mon vrai nom. Après moi est venue Lucinde, puis un enfant mort avant terme, puis ton père, qu'on appelle tous petit frère. Eulalie était de nouveau enceinte quand elle s'est effondrée de honte et de colère. Il faut dire qu'elle avait un genre de maladie qui n'a pas amélioré les choses. Elle ne devait pas manger de sel, avait dit le docteur, et il avait parlé d'éclampsie comme d'une faiblesse très grave qui devait l'obliger à prendre du repos. Mais je ne vois pas quand elle aurait pu se reposer. Ses journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient dans la nuit. Au bout de quelque temps, maman a repris vaille que vaille son commerce, mais le temps de guerre n'arrangeait pas ses affaires. Et voilà qu'on a attendu ton père, ce qui nous a replongé dans l'angoisse pour sa santé. Dans les mois qui ont suivi, elle s'est couchée de plus en plus souvent en plein milieu de la journée. Elle prétextait sa maladie, mais c'était une fatigue bien plus profonde, une sorte de découragement. Elle se levait vers 4 heures dans l'après-midi et alors elle se mettait à marcher sans but. Parfois en journée, au lieu d'aller à l'école, je la suivais en cachette pour être sûre qu'elle ne marchait pas vers un marais ou n'allait pas tomber dans un trou. Je me cachais dans les hautes herbes. Pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'elle me voie. Si elle s'était retournée, elle m'aurait pétrifiée avec ses yeux gris. La guerre s'est terminée, mais il n'y avait plus de commerce. Le souvenir de la boutique de Lali, qui avait pendant des années constitué le poteau mitant du bourg, me taraudait. C'était là où on trouvait de tout, saindoux, savon, peigne et cirage, et même au meilleur de son commerce, du beau madras gris de dentelle et toute une collection de costumes pour hommes. Madras. Elle avait trôné comme une reine derrière son comptoir. À présent, le Lolo était occupé par un Syrien bavard qui vendait surtout des sacs de riz et de farine. Il n'avait pas comme elle le souci des articles de détail si rares à trouver dans un trou comme Morne-Galant. Moi, pendant tout ce temps de difficultés, je rêvais d'avoir un jour une boutique qui surpasserait celle de Lali et qui surpasserait de loin celle du Syrien. Maman est morte en janvier 1947. Elle était encore tombée quelques jours plus tôt. Des tantes et des voisines sont venues la veiller. Nous, les enfants, on se tenait en retrait. Lucinde pleurait en silence. Papa avait fourré une douce lettre dans la bouche de petit frère qui courait autour du lit. Ensuite, on a été seuls, Lucinde, petit frère qui ne comprenait pas où était sa mère, et moi. Après les 3 jours de veillée et l'enterrement au cimetière de Morne-Galant, pendant que papa était au champ, les Ézéchiel sont venus. Ils ont fait comme si on n'était pas là, nous, les enfants. Une tante a ouvert le coffre et empoigné les 2 fichus, sans doute déçue de ne rien trouver d'autre. Une autre a passé son doigt dans les bagues et un cousin a emporté les boucles d'oreilles, tout content de déclarer que c'était pour sa doudou. Il nous disait « Vous n'avez pas besoin de ça » ou bien « On les garde pour quand vous serez plus grand ». Après s'être largement servi de son argent, il nous dépouillait de tout ce qui nous restait d'elle. Je m'étais allongée en haut du morne, de là où on peut deviner la mer au loin, comme un nuage bas, d'un bleu un peu plus dense que le ciel, et j'ai laissé le vent me parler. Pendant très longtemps, j'ai devisé avec les fourmis manioc et la terre embrassait tout mon corps, jusqu'à ce que je comprenne qu'au-dessus de ma tête, les branches formaient des mots. J'ai alors déchiffré de longues phrases soufflées par Gabriel et par le plus beau des anges, Michel, qui veille spécialement sur moi, côte à côte avec le grand Victor Schœlcher, pour qui les Noirs d'ici ont toujours voté et qui a mis un bon point final à l'esclavage. Tu dois savoir ça. Et si tu ne le sais pas, tu ne sais rien de la République. Je suis rentrée à la nuit tombée et j'ai frappé au volet du côté où Lucinde dormait en l'appelant tout bas. Après un charroi de frissons inutiles, elle a fini par m'ouvrir et je me suis couchée, mais seulement pour réfléchir à la meilleure façon de partir.
C'était donc le premier long récit de Antoine, qui est l'origine de tous les autres récits, de toute la présentation des gens de la famille. Et le début aussi de l'histoire, puisque Antoine, comme elle le dit ici, va partir, quitter Morne-Galant pour Pointe-à-Pitre et poursuivre l'aventure, donc sous d'autres auspices, comme on dit, toujours dirigé également, comme elle le dit, par Gabriel et Michel, puisque Antoine, en fait, communique avec les saints et qu'elle elle se laisse guider de temps en temps par des paroles, un petit peu comme si c'était des paroles divines. Alors, Antoine nous présente très rapidement sa sœur Lucinde, puis son frère petit frère. Et après, nous verrons ce qu'elle devient.
J'étais une sorte d'aristocrate, moi. Je ne sais pas. C'était comme cela depuis l'enfance. Je n'étais pas comme les autres. Dans ma tête, je n'avais rien à voir avec ce trou perdu de Morne-Galant. D'abord, ma mère était une béquée. Ça compte beaucoup, tu sais. Une femme magnifique à la peau blanche. De tous ses enfants, j'étais sa préférée. Elle m'appelait Minette. J'enviais ses chevilles fines, je voulais les mêmes, et elle me rassurait. J'avais de belles jambes, de petites va-nu-pieds. Mais c'est ton père qui a hérité de son nez fin, et ça, j'ai du mal à l'avaler. Ce petit bout de rien à qui je reprisais les fonds de culotte. C'est un peu à cause de lui que si je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais en ce temps-là. Ah, si je n'avais pas eu à m'en occuper...
Petit frère, donc.
Fais attention, ma fille. Ta tante Antoine, c'est une fatigante. Elle va te chauffer les oreilles avec ses bavasseries et te manger tout son temps, tout ton temps. Elle voudra enduire ton bébé d'une potion qui éloigne les mauvais esprits et te faire avaler de l'hémoglobine, des chiens, pour te donner des forces. Ne va pas trop souvent dans son gourbis sous prétexte qu'elle te raconte des choses qui te fascinent. Elle pourrait te transmettre des maladies, c'est une malpropre. Elle a encore le chauffage, au moins, dans sa boutique. Un jour, il faudra débarrasser tout ça, voir ce qu'on fait des chiens, négocier avec les services de la mairie. Lucinde parle, clame qu'elle s'occupera de sa sœur comme elle l'a fait pour Hilaire. Mais tu connais la vérité, je ferai le nécessaire. Tu n'imagines pas comment était Antoine, belle comme un soleil, irradiante dans son délire. Je peux te raconter, moi aussi, ce que c'était la Guadeloupe. Quelques éblouissements et puis rien que des blessures. Mais tu ne sauras jamais combien j'ai bu au goulot de la liberté en arrivant en métropole. Comme un assoiffé. Je ne t'ai pas parlé créole parce qu'il n'y avait aucune raison à cela. Je voulais que tu fasses des études brillantes et que tu t'élèves dans la société. Bien sûr que non. Je ne renie pas mes origines. Mais l'amour n'empêche pas la sévérité. J'ai la Guadeloupe en colère. D'ailleurs, tous les Antillais critiquent les Antillais.
Eh oui. Sentiment mitigé donc d'Antoine, de Lucinde et de petit frère pour leurs origines. Sentiment mitigé pour le changement social qui se fait jour peu à peu en Guadeloupe. Dans les récits suivants, Antoine, à 16 ans, nous raconte qu'elle quitte Morne-Galant pour Pointe-à-Pitre. Elle y vit chez une cousine Lebec, comme une sorte de bonne, mais trouve vite un emploi de vendeuse qui lui permet d'être indépendante. Alors, après quelques mots de ses premiers mois à la pointe avec la cousine Éléonore, nous la retrouverons pour d'autres aventures. Lisons donc ces quelques mots de vie à la pointe avec Éléonore et puis nous aurons seulement après un petit peu de musique. Antoine chez Éléonore.
La maison de Nonor était une belle construction en bois brut qui avait pris une teinte délavée, avec un étage et un balcon, pas en fer forgé, mais faisant tout de même joliment le tour de la bâtisse. C'était la plus spacieuse de la petite rue du cimetière. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire et j'ai frappé. Je me tenais aussi droite que possible, le parapluie calé contre ma jambe. Au bout d'un moment, j'ai entendu un pas traînant et des pleurs d'enfants. La porte a mis longtemps à s'ouvrir, mais finalement, dans l'entrebâillement, j'ai vu la face palote au trait tiré de ma cousine. À cette époque, Éléonore était une petite jeune femme aux épaules étroites. Elle avait de longs cheveux roux et mousseux qu'elle ramenait en couronne tressée autour de sa tête et des yeux gris qui folâtraient dans le verre. Le visage fin, un peu pointu, des Lebec, un teint crème qui aurait vite viré au blanc dans l'hiver français, mais une large bouche aux lèvres pulpeuses qui souriait rarement. Elle paraissait plus âgée que ses 21 ans.
Donc, Antoine arrive chez Éléonore et on va voir un petit peu ces deux jeunes femmes vivre ensemble, même si l'une est la maîtresse, entre guillemets, de l'autre. Antoine s'étonne. « Comment ? Tu ne vas jamais en ville ?»« Ah, j'y suis allée au début de cette année avec maman pour acheter quelques meubles. » Et après ? Elle haussait les épaules. « Mais alors tu ne vas jamais chez les gens, tu vis en recluse. » Elle y a réfléchi un moment et répondu d'un ton légèrement agacé. « Je n'ai pas tellement d'amis ici. » Elle a encore pouffé et puis elle m'a dit « Mais dis-moi, tu sais ce qui arrive tôt ou tard quand on parle à un homme ?»« Oh, pour l'instant, j'ai rien à craindre, j'ai pas eu mes règles. » À l'époque, nous n'étions pas dégourdis comme les filles de maintenant. Nous étions bêtes. Il fallait l'être ou jouer à l'être pour avoir bonne réputation. Tout ce qui touchait au sexe était paroles d'hommes éméchés qu'on entendait les soirs de bal et qu'on ne devait jamais répéter. Quand Lucinde a eu ses règles, une voisine lui a dit, en pointant sur elle un doigt menaçant, « À partir de maintenant, si tu parles à un homme, tu tombes enceinte. » Au début, elle en a été terrifiée. Elle s'enfuyait comme un lapin si un gars se pointait à l'horizon, jusqu'à ce qu'on comprenne que, bon, tout ça, c'était bitin-couillonnade. Il fallait tout de même faire semblant d'avoir peur, et on craignait vraiment les corrections à l'idée de se retrouver seule avec un garçon qui essaierait de nous embrasser. Voilà comment les adultes essayaient de nous tenir, avec les filets de la peur. Mais nous, toutes les deux, là, au bout de 6 mois, nos dents se saluaient, nous étions deux jeunes filles riant ensemble. Bien qu'Éléonore fût la plus âgée et de plein pied dans la vie conjugale, il me semblait parfois que j'avais plus qu'elle l'expérience de la vie, et tout à coup, je prenais conscience de ma robe tachée, de mes cheveux épais, nattés sans coquetterie. Elle aussi s'en est aperçue. Elle a pensé me donner une robe, puis une autre. Et en fait, elle m'a même dit « On va confier Annie à la voisine et voir un peu rue Frébeau ce qu'on peut te mettre sur le dos. Et puis, on achètera des bivanos et tu me montreras tes amis du marché. » Voilà, à partir de là, on s'est mis à sortir l'après-midi. Elle m'a acheté une jolie robe, un peu rose, un peu en matrasse imprimée, mais dans les roses. Voilà, Nanor l'avait eue pour une bouchée de pain. La robe découvrait mes épaules rondes, elle faisait ressortir mes longs bras. Dans le voisinage, j'étais désormais identifiée comme la jeune cousine, mais finalement, je ne devais pas y rester longtemps. Nous allons laisser Antoine à ses aventures et écouter un petit peu de musique, du zouk bien sûr, pour reprendre respiration en ce qui me concerne, et ensuite nous reviendrons à ce récit.
C'est la cosa, yeah.
Très bien, hein, avec Patrick Saint-Éloi, c'est du, rook sympa, du zouk sympa, du zouk tranquille et balancé, mais bon, bah, écoutez, je reprends la parole. En fait, notre Antoine, puisque c'est quand même notre héroïne principale, là, maintenant, notre Antoine, elle est chez Éléonore, mais ça ne va pas durer très longtemps. En effet, René, le mari d'Éléonore, n'apprécie pas trop Antoine. Et c'est lui qui, en fait, va la pousser dehors.
Parfois, j'offrais des quenettes à la petite Annie, qui adorait ça. René me lançait un regard noir et disait à sa femme, avant de sortir, « Prends garde à ce qu'elle étouffe, pas la petite avec sa noyau. » Nonor tournait un regard inquiet vers sa fille, qui recrachait un beau noyau rose tout propre. Tu parles. Tous les timouns de l'île marchaient avec des branches de quenettes plein les mains. C'est le fruit de l'enfance.
Les timouns, c'est les minots.
Le lendemain, d'un air gêné, Nonor m'a suggéré pour mon propre bien de retourner à Morne-Galant. J'ai pris mon sac et mon parapluie et je suis partie sans un mot. J'ai eu un peu pitié d'elle parce que je savais qu'aussitôt René absent, sa solitude la torturerait comme 10 piqûres de scolopendre. Et puis j'ai pensé, tant pis pour elle, m'en fous moi. Et je me suis retrouvée dans cette rue du cimetière, comme au premier jour, sauf que je portais une robe rose au lieu d'une blanche.
Alors avant de continuer la vie d'Antoine à Pointe-à-Pitre, revenons à l'Agnès. C'est l'Agnès qui reprend la parole.
Créteil, dans sa forme moderne, n'a que 10 ans de plus que moi. Pourquoi suis-je née là plutôt qu'ailleurs, dans ce paradis sans histoire, sans rituel, sans tradition, sans surveillance exagérée ? Dans cet impersonnel érigé en mode de vie, était-ce un choix délibéré de mes parents ou la logique implacable du cours des choses dans la société française des années 70? J'ai 2 ans. J'apprends à marcher dans cette ville pensée comme un ballon d'essai pour l'avenir. Je suis une petite fille propre et française. J'ai 4 ans. Je me revois dans la salle de bain rose de l'appartement fonctionnel conçu pour un couple et 2 enfants. J'ouvre le tube de dentifrice à rayures. Je viens de regarder, récré à deux à la télé. Il y a de la moquette rase orange dans le salon qui m'écorche les genoux quand je chahute avec mon frère. Dans la rue, les gens veulent tout le temps toucher mes cheveux. L'été, de mes premiers pas, ma mère m'a tenu la main le long d'un champ troué de coquelicots. Quelques mois plus tard, le champ a été remplacé par un centre commercial flanqué d'un supermarché, d'un parking, d'une galerie marchande et de la sortie de métro, tout au bout de la ligne qui traversait Paris en amont. La galerie poussait chaque année un peu plus, comme si elle était la seule chose solide, éternelle dans l'univers. Vers 12 ans, j'aimais bien y flâner avec mon copain Dominique, le seul de mes copains qui soit antillais. Il habitait avec sa mère dans une HLM déjà noircie par le temps et un peu lézardée, du côté de l'ancienne école de filles. Je crois qu'il ne voyait jamais son père rester en Martinique. Quelle que soit la température, il portait le même blouson bleu électrique en tissu synthétique. C'était un garçon joufflu et balourd, à la voix cassée, trop grand pour son âge. Il souriait beaucoup, mais son regard fuyait dès qu'il était en présence d'un adulte. Désolée. C'était le temps où nous regardions Dallas chaque samedi soir. Il n'y avait pratiquement aucun noir à la télévision française et absolument aucune noire. Mais parfois, nous apercevions Sidney Poitier ou Ray Charles, que ma mère adorait, des hommes bourrés de talent et sûrs d'eux, classieux, infiniment plus glamour que les Antillais que nous connaissions. Ils nous rendaient fiers, d'une fierté toute artificielle. Les Antillais et les Noirs américains partageaient une même expérience minoritaire et une part d'histoire commune, mais la France et les États-Unis ne modelaient pas du tout les individus de la même façon. Il y avait indéniablement moins de violences à subir en France, mais en revanche, les Antillais n'avaient aucun modèle auquel s'identifier. Nous étions pourtant à l'affût. C'était devenu un réflexe. Quand on apercevait un noir à la télévision française, on s'exclamait en riant. « Qu'est-ce qu'il fait perdu là, celui-là ? » La France ne renvoyait à elle-même l'image d'un peuple lisse. La France se renvoyait à elle-même l'image d'un peuple lisse sans spécificité ethnique. Au cours des années 80, la notion d'égalité des chances commençait sérieusement à perdre de sa force, notamment face aux réalités vécues par les premières générations d'enfants d'immigrés, nés en France, diplômés, chômeurs. Mon père défilait de nation à république contre les privatisations des banques, des usines automobiles, du téléphone et de la télévision. Partout, l'État se retirait comme une vague sur la grève. Heureusement, Yannick Noah avait gagné Roland-Garros, ce qui nous remontait le moral. Les Antillais persistaient à vouloir s'intégrer au paysage national et même à célébrer avec ferveur les valeurs de la patrie, mais nous sentions bien que quelque chose n'était pas en accord avec les promesses de la République.
Même Françoise est enrhumée, vous voyez, j'ai dû lui passer mon rhume, hein. Alors on va la laisser tousser un peu.
Et plus j'observais ce fossé. Au cours des années 90, lors de ma scolarité dans de grandes écoles, je n'ai plus côtoyé aucun étudiant ultramarin. Ceux que je croisais à Créteil avaient pour la plupart lâché la fac. Aucun de mes cousins et petits-cousins n'avait entrepris de longues études. Dans le meilleur des cas, comme leurs parents avant eux, ils s'apprêtaient à prendre un poste dans la fonction publique ou à l'usine. Ce n'était plus l'insouciance et l'optimisme dont m'ont fait part petit frère et Lucinde lorsque je les ai questionnés sur leur arrivée à Paris dans les années 60. 30 ans après, le climat avait totalement changé. Les jeunes Antillais nés à Sarcelles, La Courneuve, Villeurbanne ou dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France étaient à la fois mieux protégés et en butte aux mêmes difficultés que ceux issus de l'immigration africaine ou maghrébine. Faute de mieux, ils se choisissaient des modèles outre-Atlantique. Aux ambiguïtés de la France, ils préféraient le rutilant rêve américain, plus dur à réaliser mais en apparence plus honnête. Ils s'identifiaient aux gangsters magnifiques autant qu'aux businessmen bourrés de dollars, aux rappeurs issus des ghettos, comme aux super flics noirs de New York. Pourtant, ils sentaient bien que l'illusion était grossière. Les Antilles françaises, si proches géographiquement de l'Amérique, en étaient fondamentalement différentes. L'Amérique de cinéma n'avait rien à voir avec l'Amérique réelle et la France demeurait leur terre, où miroitait une réussite sociale inatteignable.
Oui, c'est intéressant, ce dialogue à distance qui se poursuit entre Antoine dans son temps à Pointe-à-Pitre et puis la nièce, notre presque contemporaine, qui vit en famille l'exil intérieur des Antillais en métropole, avec les manifestations du racisme quotidien ou au moins des différences d'avec les Français de souche. Donc nous allons maintenant connaître la suite des aventures d'Antoine à Pointe-à-Pitre. Au fur et à mesure que sa vie change, la ville se transforme également. Aux Antilles, dans les années 60, eh bien, les choses se modifient. Et la vie de ceux qui tâchent de réussir n'est pas facile non plus.
Moi aussi, je suis descendue travailler. J'avais plus que jamais en tête mon projet d'ouvrir un commerce. C'était l'aura de ma mère, Eulalie, que je visais. Pas moins qu'elle. Peut-être plus, un jour, si je m'y prenais bien. Dédé m'a présenté à une commerçante du centre-ville, Man Pilote, une coulie qui avait choisi avec soin et qui vendait des vêtements qu'elle achetait en Martinique. Man Pilote était âgée, discrète, plutôt silencieuse. Ses enfants étaient partis en métropole. Elle leur envoyait chaque mois une somme d'argent sans recevoir de nouvelles en échange. Elle portait des colliers d'or lourds et nombreux sur sa robe. Ses cheveux d'indienne étaient serrés en arrière, sans aucun fil blanc. Son visage, en revanche, était ridé comme une peau de boudin, dont on aurait sucé vider toute la pulpe. Ses yeux vifs, enfoncés dans leurs orbites, surmontés du point d'encre rouge que les femmes coulis portent au front, m'ont détaillé de la tête aux pieds. Après un petit silence, elle m'a demandé « Antoine, c'est bien ton nom? Tu t'appelles comme l'ermite ?» Et l'ermite me parle souvent. Il vient me voir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mon prénom, justement. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il me parle de son chemin difficile, il me rassure. Et qu'est-ce que tu sais du commerce? Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Demain, tu vendras plus qu'hier. Alors à demain, et arrive tôt, pour que je t'explique la boutique. J'embellissais encore. À 19 ans, j'étais un vrai fruit de carême, ferme et doux. J'attirais les hommes comme les femmes avec mon bagout et mon sourire frais. Je passais volontiers des journées debout sur le seuil de la boutique à saluer les passants. J'arrangeais et réarrangeais 10 fois les cintres de bois d'où pendaient des draps, les robes et les chemises à vendre. Quand une cliente entrait, j'étais à la fois ses mains, ses yeux et ses oreilles. Je lui faisais tout voir en qualité, même les torchons qui n'étaient rien de plus que des carrés cousus dans la toile de sac de farine. Quant aux hommes, il ne demandait pas mieux que s'arrêter 5 minutes pour écouter mon boniment, pourvu qu'il puisse me détailler et m'inviter en vain à des rendez-vous galants.
Donc, ça va plutôt bien hein, pour Antoine à Pointe-à-Pitre. Et finalement, elle va avoir sa propre boutique et réussir dans son commerce. Au bout de 3 ans, à travailler chez Madame Pilote, j'avais accumulé une petite somme qui me permettait enfin de prendre ma vie en main. Alors, Dédé a trouvé un local avec un appartement à louer, rue Schœlcher. Ce n'était pas aussi bien que la rue Frébeau, qui était la rue la plus dynamique en matière de commerce, mais c'était un bon endroit, proche de la Darse, et qui suscitait même pas mal d'effervescence. Un antique logis de maître avait été découpé en 3 petits appartements, le mien occupait la partie centrale et il était agencé sur 2 étages. 2 étages, comme chez Éléonore, le comble du raffinement. La rue Frébeau, la rue Schœlcher, n'avaient plus aucun secret pour moi. Je connaissais toutes les échoppes et tout ce qui vendait. Je savais qui se ravitaillait aux bons endroits, qui connaissait plus d'un tour pour ne pas payer les droits de douane, qui était dans les mains des béquets et qui essayait de survivre en indépendance. Ma première idée, ça a été de me démarquer des autres magasins en proposant des biens qu'on ne trouvait pas ailleurs et que je choisirais moi-même, pièce par pièce. Pour ça, j'ai appris tous les horaires des bateaux qui quittaient le port de Pointe-à-Pitre et je suis allée me ravitailler là où il fallait. Mon premier voyage fut sur le Magellan, départ pour Caracas à 8 heures du matin. Je me suis assise sur le pont, mon billet entre les mains. Caracas n'était pas très différente de Pointe-à-Pitre. Elle était à l'époque un peu plus grande, avec d'énormes montagnes autour et de larges allées. J'y ai retrouvé des Antillais qui travaillaient dans la construction, dans les raffineries de pétrole et dans le commerce. Je me suis mise à parler un sabir d'espagnol mêlé à mon créole. Les gens du marché me comprenaient suffisamment pour se lancer avec moi dans d'interminables marchandages. J'ai acheté des quantités de tissus, quelques bijoux en or, et ce qu'on n'avait jamais vu en Guadeloupe depuis l'époque du rationnement. Ça réapparaissait peu à peu et j'étais les premières à les faire réapparaître. Les femmes en étaient folles. Lors de ce premier voyage, j'ai aussi acheté quelques ustensiles de cuisine, encore rares sur le marché de Pointe-à-Pitre. Ce commerce, c'était ma vraie passion. Ce n'était pas tant les bénéfices qui m'intéressaient que ma capacité que j'avais désormais à déplacer des objets d'un endroit à un autre, à posséder un jour ce que j'abandonnerais sans regret le lendemain. Je revenais en Guadeloupe chargée de ballots, de paquets, et à ce commerce, j'y tenais autant qu'au sang de mes veines. C'était le commerce des conteneurs. Le commerce des conteneurs qui gavait les habitants d'une identité nouvelle, construite sur les arrachements anciens et des lambeaux d'histoire d'hétéroclites. Curie des Indes, morue des boucaniers, baquettes françaises, sur fond de cuisine caraïbe et africaine. En échange, nous avions à fournir du rhum et des bananes. Les cultures locales disparaissaient peu à peu. C'était le règne des importateurs. Les sièges se trouvaient au Havre et à Paris. Alors moi aussi, je changeais. Je m'en sortais bien, je m'en sortais comme je pouvais, dans cette foire d'empoigne où les policiers et les douaniers se mettaient toujours du côté des plus forts. Mais j'arrivais à les contourner. Je les connaissais, eux aussi. Pour tout dire, Caracas m'avait donné des ailes. On voyait de riches Vénézuéliens se promener là-bas en voiture dans les allées dégagées de la ville. On voyait là-bas des galeries d'art. C'est là-bas que j'ai vu les premières peintures de Wilfredo Lam, les premières sculptures d'un dénommé Jesus Soto. Morne-Galant était loin, avec sa campagne taiseuse et ses longues soirées d'ennui. Et moi, à l'image de Pointe-à-Pitre, avec un reste de misère et d'âpreté, je me développais sans arrêt, je changeais sans arrêt, dans un optimisme tranquille vers une nouvelle ère. Car toute la ville évoluait sous mes yeux. On voyait encore une majorité de cases et quelques belles maisons en bois le long des quartiers centraux, mais au fil des années, la ville s'était couverte de grues et le roi béton a commencé à s'installer. Encore 20 ans, et là c'est devenu la goinfrerie, la grande fête à la Farge. Et c'est lui qui s'est installé, à partir du port, même sur ordre de De Gaulle, pour cimenter la place. Dans les années 70, toutes les maisons se sont mises à arborer des piliers avec des barres de fer qui griffaient le ciel comme des promesses. Et oui, c'était l'étage à venir de la maison pour les enfants. Et comme ce n'était jamais fini, on attendait pour peindre. Alors le béton grisaillait sous le soleil. Et même au fond de la campagne, même dans les grands fonds, ça bétonnait, c'était comme une démangeaison dans France. Eh oui, la démangeaison dans France, c'est ce qui va peu à peu grignoter la Guadeloupe, grignoter aussi la vie de famille d'Antoine. Cette vie continue, bien sûr, avec Lucinde qui va se marier, qui va devenir une couturière recherchée à Pointe-à-Pitre. La vie de la famille continue aussi avec petit frère qui va aller au collège, puis au lycée, en ville en tout cas, en logeant chez sa grande sœur Antoine. Et juste avant de se quitter, on va chercher une image, une des dernières images justement de Guadeloupe, qui est donnée par petit frère, puisque en habitant chez sa tante, il va un jour profiter du carnaval.
Près de nous, les tambouriers changeaient de rythme sans se parler, sans même échanger un regard, leurs tambours communiquant directement. À mesure que la musique enflait, l'inquiétude me quittait. Les gros tambours m'emportaient vers une semi-conscience. Immobile et fasciné, je me laissais habiter par les rythmes qui me répondaient, sans lasser, reprenaient ensemble, amenaient peu à peu la foule à une communion proche de la fusion. C'était le peuple qui se trouvait là, à battre des mains et à exulter de son triomphal de guoka. au son triomphal du guoka. Le défilé avançait lentement, les danseuses s'arrêtaient, ouvraient leurs bras cerclés d'or, chantaient un répond, tournaient souples comme des ruisseaux, offraient leur dos et leur cou luisant aux spectateurs, puis repartaient en avant, suivis des trompettes et des souffleurs de lambi. Quand le soleil a décliné, j'ai emboîté le pas d'Adose, impériale, qui retournait chez elle, suivie de sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants. Nous n'étions pas rassasiés de musique et de danse, mais la chaleur nous a soiffés. Là-haut, dans le faubourg, c'était un autre carnaval, plus terrien, plus brut. Les tambours résonnaient comme un appel venu de partout à la fois. Le morne tout entier palpitait, la terre vibrait. Tous les habitants du quartier étaient dehors à répondre en chœur aux appels du maître K. Les cercles en tambouillé ouvraient de grands espaces au milieu desquels un danseur ou une danseuse, tiré de la foule, se tordait comme une flamme, sautait, transformait en poésie un geste tiré du quotidien, puis retournait à l'anonymat. Des visages méconnaissables, enduits de sirop et de suie, jaillissaient dans le noir. Les enfants dansaient avec la même grâce que les adultes, un air d'exultation sur le visage. Je me suis assis sous le manguier et j'ai continué à écouter, prêt à rester là toute la nuit, illuminé par les feux des flambeaux brandis par des ombres mouvantes. Le père d'Ivan était là, frappant dans ses mains, criant et encourageant les tambours qui semblaient battre un rappel traversant les siècles. En bas, le carnaval était démonstratif et de joie pure. Ici, il devenait bête de combat.
Bête de combat. Bête de combat, oui, comme les combats que vont mener peu à peu les Antillais, les Guadeloupéens en particulier. Dans la suite du livre, on va retrouver l'évocation de Frantz Fanon que découvrent les locaux. Et puis, on va retrouver les journées de 1967 pendant lesquelles la Guadeloupe manifeste sa rébellion. Mais très vite, les indépendantistes se rendent compte que s'ils échappent au contrôle français, ce sera pour tomber dans le néocolonialisme états-unien. Donc en fait, on va avec eux pendant un moment, au moins encore, préserver donc ce département français. On va préférer la protection française à la sauvagerie du néo-capitalisme qui arrive des États-Unis tout en fournissant des produits que tout le monde va acquérir. Et puis nous allons vous laisser donc en laissant Antoine vieillir, en laissant la nièce devenir majeure, devenir étudiante, devenir professeur. Et oui, peu à peu, le générique de l'émission va me remplacer et nous vous retrouverons la semaine prochaine beaucoup plus au nord. Je vous promets plutôt des Indiens d'Amérique.
Malaika, nakupenda malaika, malaika.